Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Cet épisode sort le 29 avril 2021, la veille de la journée pour la non-violence éducative. Cette journée fondée par Catherine Dumonteil-Crémer marque la volonté de toute une partie de la population de changer le paradigme de la violence et notamment de la violence dans l'enfance pour amener un changement de société. Dans cet épisode, je reçois Nelly du centre de formation Les Petits Sages qui accompagne les pros de l'enfance et de la petite enfance ainsi que les parents pour justement évoluer sur ces questions de l'enfance, d'accompagnement de l'enfant et d'éducation. Je fais une petite aparté pour vous remercier car cet épisode a été enregistré en live avec le matériel que j'ai pu acheter grâce aux dons notamment que vous m'avez fait via la plateforme Supporter. Merci encore beaucoup pour cette aide financière, pour votre soutien et bien sûr pour votre écoute. Je vais le dire comme on dit chez moi, c'est gavé bien. La première question que je vais poser à Nelly, c'est justement de redéfinir un petit peu ce qu'est la non-violence éducative. Je vous souhaite une très bonne écoute.
La non-violence éducative, ce serait considérer l'enfant comme un être à part entière. Casser cette position dominant-dominée que l'on peut parfois avoir en tant qu'adulte. Et finalement, être dans une relation humaine, encore une fois, d'égal à égal avec l'enfant.
Ok, ça a l'air simple comme ça sur un papier. Pourquoi c'est un sujet en fait finalement ?
Pourquoi c'est un sujet ? Parce que ce n'est pas le paradigme dans lequel on a été éduqué pour la plupart d'entre nous. J'ai envie de dire tous en réalité. Et je tiens à préciser que quand je parle d'éducation, je ne parle pas que des parents, même loin de là. Je parle de la société au sens large. C'est une violence qui est bien souvent institutionnelle, qu'on va retrouver dès les premières proposition d'accueil de l'enfant et qui dure toute la vie, je crois.
C'est vrai qu'on retrouve ces sujets-là ensuite aussi dans le domaine professionnel quand on est adulte, c'est compliqué, on trouve les mêmes mécanismes. Donc pour le coup, c'est éviter des violences. Donc ces violences dites éducatives ordinaires, c'est quoi en fait ?
Donc là, les violences éducatives ordinaires, c'est l'ensemble des violences physiques, psychologiques, verbales qui vont être faites à l'enfant. Et qui vont finalement l'humilier, lui faire peur, tout un tas de choses qui vont lui rappeler que, et là j'ai envie de faire écho au podcast d'André Stern, que comme il est, c'est pas bien, et que l'adulte sait, et que l'adulte est mieux que lui. Donc on se retrouve dans une position dominant-dominée qui, on le sait aujourd'hui, est dommageable pour le développement de l'enfant.
Ok, pour son développement physique, émotionnel.
J'ai envie de dire l'ensemble de son développement. C'est bien sûr avant tout son développement émotionnel et psychologique. Mais on sait aujourd'hui que tout fait lien et que pour pouvoir se développer de façon harmonieuse et si on parle sur un sujet très, très concret, pour pouvoir développer correctement son néocortex, il faut qu'au niveau émotionnel, déjà, on aille bien, on soit bien. C'est de cette façon-là qu'on se développe en tant qu'être humain.
Pour le coup, ça soulève deux questions chez moi. La première, c'est de me dire, puisqu'on peut en effet se mettre d'accord sur le fait que dans le paradigme dans lequel on a été élevé, les violences dites éducatives ordinaires sont présentes, est-ce que ça veut dire que la majorité des adultes en France aujourd'hui n'ont pas un néocortex bien développé ?
On ne pourrait pas dire ça. En tout cas, je ne suis pas neurobiologiste et je ne pourrais pas t'apporter ces datas-là. Mais en tout cas, on peut se demander, est-ce que la société va bien ? Je pense que ça, c'est quelque chose de visible pour chacun. Même si on met de côté ce qui se passe depuis un an, est-ce que la société va bien ? Est-ce que les relations humaines vont bien ? Est-ce que l'on évolue dans une société, encore une fois, dans laquelle le respect entre êtres humains est présent au quotidien ? Je ne suis pas sûre.
Ok. La deuxième question qui m'est venue, c'était de me dire, mais pourquoi est-ce que... c'est encore un sujet qui est sur la table ? Puisqu'il y a une loi qui a été validée par nos institutions le 11 juillet 2019 et qui interdit les violences dites éducatives ordinaires.
Parce qu'interdire sans donner des clés, c'est compliqué. Je m'explique. Cette violence donc, a été mal nommée la loi anti-fessée. Donc juste pour le repréciser, Cette loi, elle est censée en effet mettre fin aux violences éducatives ordinaires en évitant tout châtiment physique, corporel que l'on pourrait avoir envers l'enfant. Mais comme on vient de le dire, on a évolué, on grandit dans une société où les violences éducatives ordinaires sont présentes. Donc, nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on a grandi avec ces violences éducatives ordinaires. Donc, nous dire qu'il ne faut pas faire comme ça, merci. Nous l'expliquer concrètement, et là, je reviens, par exemple, à l'idée d'expliquer concrètement le développement du cerveau, ça pourrait être une piste et d'autres choses. Hein. Mais après, c'est le comment. Et aujourd'hui, c'est ce comment qui manque. C'est ce comment qui, on y reviendra, je crois, est culpabilisant. Et c'est ce comment qui, finalement, va aussi rompre la parole. Parce que comme on sait qu'on ne peut pas faire, on ne va plus le dire. Et finalement, on va avoir beaucoup plus de violences qui seront cachées.
Ça, c'est quelque chose que tu rencontres dans ton expérience de terrain, au niveau de l'accompagnement des parents et des pros ? La parole qui est tue ?
La parole qui est tue, oui, complètement. Et bon, on sait encore une fois que par rapport à la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, ces violences ont été exacerbées, développées. Parfois, je trouve légitimées, parce qu'on était aussi dans un discours comme quoi, bon, c'est déjà pas facile de télétravailler, d'avoir les enfants, etc. Je suis d'accord avec tout ça, hein, et je le vis, c'est compliqué. Mais donc, tu vois, il y a toujours cette légitimité qui revient à un moment sur les violences éducatives ordinaires. Mais pour revenir à ta question, oui, je le rencontre et je fais souvent le parallèle, tu sais, avec l'histoire, comment est-ce qu'il faut coucher un bébé ? Est-ce qu'il faut coucher sur le ventre, sur le dos, etc. On nous dit, bon, ça change tout le temps, donc finalement, mon bébé, il dort sur le ventre, mais je ne le dis pas. Eh bien oui, on vit exactement la même chose avec les violences. C'est-à-dire, il y a une petite fessée qui est partie, mais je sais que ce n'est pas bien. Tu vois, on est vraiment, et finalement, on se retrouve de nouveau jugé, donc on ne va pas le dire. Donc côté parents, ça va souvent être ce type de discours. Quand on arrive à mettre en place une relation de confiance, parce qu'au premier abord, il y a des choses que l'on peut pressentir, ressentir, mais les parents ne vont pas le dire, sur des parents qui sont justement en chemin. Et au niveau des professionnels, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est que je crois qu'il n'y a même pas toujours cette conscience des violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire que non, on est bienveillant, tu sais, ce mot qui pourtant est chouette de sens. Mais on n'en a pas conscience. Et quand on n'en a pas conscience, il y a encore une étape de plus à franchir avant même de pouvoir en parler.
Ouais, c'est vrai que tu utilises le mot bienveillant. Il me semble essentiel que ce soit pour les parents comme pour les pros. On peut être tout à fait bienveillant et coller une gifle à un enfant, hein, concrètement. Oui. C'est pas une question de personnalité, c'est une question de comportement et de fait, en fait. Le sujet, il est là. Je pense que c'est important de le recentrer parce que et c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi dans ce que tu viens de noter, c'est que, tu vois, pour reprendre ton exemple, le parent qui a mis une fessée à son enfant et qui sait que c'est problématique et qui n'en parle pas, mais finalement, personne ne va pouvoir l'aider, quoi.
Personne ne va pouvoir l'aider, il va rentrer chez lui, il va culpabiliser. De culpabilité, il peut encore, excuse-moi l'expression, s'en prendre à son enfant, et finalement, on est dans ce cercle vicieux. On le voit tous les jours au parc. Je pense que c'est des scènes que nous vivons tous. Et je pense encore à une scène hier d'une certaine violence, en fait une petite fille qui était en train de faire un caprice, je mets des énormes guillemets, on sait entre nous qu'on ne parle pas de caprice, mais qui était dans une véritable tempête émotionnelle et où la maman était perdue parce que ce regard, bien entendu, tout le monde regarde, etc. Et à ce moment-là, ben, je pense que c'est un petit peu aussi notre responsabilité d'être humain, au lieu de la regarder, si on s'en sent la capacité, aller la voir et lui dire que c'est ok et que ça va. Parce que juste ce poids, en fait, il ne sert à rien. Donc, elle a pris sa fille dans ses bras qui se débattait parce qu'elle était dans cette tempête émotionnelle. Le parc dont je parle, il y a un petit pont qui glisse un petit peu. Donc, la maman a même failli tomber. Enfin, la situation n'était pas du tout confortable. Et à ce moment-là, tu as juste envie d'aller la voir et lui dire que c'est OK. Et finalement, le simple fait de le faire, même si on a l'impression que ça ne sert à rien, parce que souvent, c'est ce que me disent aussi les adultes ou les parents. Oui, mais ça ne sert à rien, j'ai essayé d'aller lui parler, elle n'a pas écouté, on ne sait pas. Peut-être que sur le coup, elle aussi, elle n'avait pas la possibilité de prendre ce recul, parce que finalement, elle était en phase aussi avec son enfant, et elle essayait déjà d'accueillir l'émotion de son enfant, pour pouvoir ensuite accueillir d'accueillir déjà la sienne, pour pouvoir ensuite accueillir celle de son enfant, pardon. Donc on a l'impression que ça ne sert à rien, mais je pense que ça ne sert jamais à rien. C'est de se dire, ok, quand j'arrive chez moi, je sais que je suis pas seule, en fait. Ça, c'est important.
Mais c'est vrai que c'est un gros sujet. C'est marrant que tu racontes ça, parce que moi aussi, hier au parc, j'ai eu une petite anecdote. En fait, moi, c'était avec un papa qui était, comme beaucoup aujourd'hui, en télétravail, en garde d'enfants. Et donc, sa petite a 3 ans et 2 mois. Et donc, nos filles jouent. Donc, ma fille, elle a bientôt 3 ans. Et puis, à un moment, en fait, il s'est installé une espèce de... on discutait. Et puis, bon, les filles se mettent à jeter des cailloux. Bon, voilà, des petits cailloux, elles les jettent en l'air. On s'en fout un peu. Et puis, ça commence à partir un peu à côté de la clôture. Et vient l'intervention du père qui veut absolument que ça reste là-dedans. Et avec une très grande fermeté, on va dire. Très, très grande fermeté. En tout cas, un besoin d'obéissance immédiate. Et pour le coup, on échange et on met un petit peu on va dire un petit peu de nuance dans tout ça, en expliquant aux enfants, voilà, les cailloux, c'est mieux s'ils restent dedans, parce que sinon après c'est embêtant pour les gens qui nettoient quand c'est dans l'herbe. Enfin voilà, on essaie d'expliquer tout un tas de raisons. Et il y a eu quand même ce moment où il m'a dit non mais à un moment elle doit juste obéir quoi.
C'est ça.
Tu vois. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que on était deux hommes et qu'il y a vraiment eu ce moment où je suis l'homme, je suis le père, je suis l'autorité, et je vais te montrer à toi, autre père, que ça va s'exprimer. Et c'est rigolo parce qu'on a parlé après de ça, en fait.
D'accord.
Ouais, parce qu'on est arrivé, en fait, dans la discussion à exprimer le fait que je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il y avait un petit enjeu entre nous, machin.
Elle me dit,
on discute, quoi. et il me dit, bah oui, bien sûr, moi je suis le père, je suis l'autorité, elle doit obéir, quoi. Et la question que je lui ai posée, c'est, pourquoi ? Voilà. Et en fait, on est resté un peu en suspens là-dessus parce que les filles ont pour le coup, en effet, ensuite, on sont partis sur d'autres choses qui étaient moins acceptables dans un lieu commun. Donc on a dû s'en occuper. Mais voilà, j'espère le recroiser pour creuser un peu tout ça. Mais si tu veux, il y a vraiment ce côté de challenge, de montrer que c'est moi qui domine, c'est moi qui dirige, d'un côté. Et d'un autre côté, cette culpabilité quand on bascule et qu'on passe à l'acte alors qu'on ne voulait pas forcément au départ. Et il y a vraiment ce tiraillement intérieur, je trouve, chez les parents qu'on peut retrouver. Mais la question que je ne peux pas m'empêcher de me poser, c'est si tu veux, c'est cette loi est passée en 2019. Qu'est-ce qui a été mis en place et mis en œuvre dans les structures pour accompagner les pros, les parents et le reste de la société, les autres adultes, même ceux qui n'ont pas d'enfants?
Alors... On va essayer de rester un peu positif. Il y a de la volonté. Tu as déjà parlé dans ton podcast du projet qui n'est plus un projet, mais sur les 1000 premiers jours. Donc, il y a une volonté politique qui n'est pas forcément directement liée aux violences éducatives ordinaires, mais qui forcément fait lien, qui est d'accompagner davantage les parents. Concrètement, comment ça se passe? Nous, on peut le voir sur le terrain, c'est au niveau local, grâce à des subventions qui sont allouées aux communautés de communes, aux mairies, etc., pour développer des axes de soutien à la parentalité. Donc ça, c'est une des premières choses qui est mise en œuvre pour pouvoir accompagner les parents et les guider. Par exemple, on anime très souvent ce qu'on appelle des cafés parents. Cafés parents, donc qui sont à thème ou pas, c'est un lieu où on vient échanger. Donc c'est vrai que souvent, c'est plus simple quand il y a un thème. Et qui vont permettre de libérer la parole. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver un petit peu partout sur le territoire, j'en suis convaincue, et qui est une première piste. Grâce à la crise sanitaire, parce qu'elle a quand même des points positifs, il faut en trouver, il y a eu beaucoup de choses aussi en ligne qui se sont mises en place et qui sont davantage structurées et suivies, parce qu'aujourd'hui... les accompagnants, consultants, coachs, peu importe, en parentalité, peu importe comment on va les appeler. Il y en a beaucoup sur le web, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. Et c'est vrai que c'est quand même un véritable avantage quand ce sont des personnes du terrain qui font le relais auprès de familles qu'elles connaissent, soit par le biais de l'accueil en crèche ou en assistante maternelle, peu importe, et qui vont dire aux parents, on a organisé, alors souvent ce sont des soirées, avec de nouveau des thèmes qui vont être proposés en ligne pour les parents. Donc il y a ce genre d'initiative qui fonctionne aujourd'hui très bien. Et j'invite vraiment tous les parents, alors les parents de jeunes enfants, de se rapprocher de leur mairie, parce qu'on ne sait pas toujours que ça existe. Et pour les plus grands, mais peut-être parfois des centres socioculturels, il y a vraiment des initiatives. En tout cas, sur le terrain, il y a une forte envie et une forte mobilisation qui est opérée. Il y a beaucoup de frustration parce que aujourd'hui, on peut de nouveau proposer des rencontres et des ateliers en gardant les règles sanitaires, etc., avec un nombre limité de personnes. Mais il faut laisser cette possibilité. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à un moment où on peut tous se responsabiliser par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et il est important de garder des accueils physiques parce que tout le monde n'est pas équipé pour aller en ligne. Tout le monde n'a pas la capacité de le faire et tout le monde n'en a pas envie. Donc ces mesures-là, elles existent, ce soutien-là existe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut encore souvent aller le chercher un petit peu.
Est-ce qu'il ne manque pas une structure quand même au niveau de l'État ? Parce que c'est vrai que, pour en avoir discuté notamment avec Adrien Taquet, aujourd'hui, pour eux, l'accompagnement sur ce sujet-là, il se fait via le biais d'associations. Je pense notamment à l'association StopVO, oui. Mais qui n'est pas composée de professionnels du terrain, justement. Et aussi, par exemple, par d'autres petites actions. Je pense notamment au numéro pour la recité de porté par la parentalité créative de Catherine Dumontet-Crémer, qui est le numéro SOS Parentalité, qui est subventionné par l'État. Mm-hmm. Mais en fait, j'ai l'impression que l'État ne s'est pas engagé dans des structures propres qu'il a créées, parce qu'on parle souvent des structures comme la PMI ou des choses comme ça, mais les retours des parents restent quand même très mitigés. Donc, est-ce que c'est là aussi des actions locales qui sont menées ou qu'est-ce qu'on peut rencontrer quand on est parent, justement, vers qui on peut se tourner pour évoluer sur le sujet ?
La question n'est pas simple parce que c'est vrai que la PMI, on peut être bien reçu ou pas. Et souvent, c'est quand même ou pas. Ça peut être très culpabilisant. Donc, je reviendrai à l'idée quand même de la mairie et de rechercher les lieux d'accueil parents-enfants, ou en tout cas les structures qui se développent énormément. Il y a de plus en plus de l'AEP qui ouvre, donc les l'AEP, ça veut dire lieu d'accueil enfants-parents. Et je pense que ce sont ces structures-là qu'il faut chercher. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, je t'avoue que je ne sais pas si ça existe, je pense que la première action à mettre en place, ce serait simplement un mapping, un site qui permette à tout parent de savoir quelles sont les structures publiques qui existent près de chez lui. Ça paraît simple, on dit comme ça. Mais ce serait déjà riche parce que on le retrouve parfois sur le site de la CAF aussi, mais bon, on est en train de le dire en fait, il faut que tu ailles un petit peu sur le site de la CAF, un petit peu, voilà, il y a plein de sites, il y a monenfant.fr, mais aujourd'hui, il n'y a pas finalement un point d'entrée central, alors que paradoxalement, c'est ce qui est de plus en plus demandé aux communes et aux communautés de communes, c'est d'avoir ce pôle enfance et petite enfance qui permet de centraliser l'information et l'accompagnement aux parents. Donc, peut-être qu'ils commencent à structurer en local pour ensuite pouvoir apporter une structure nationale, je ne sais pas. Mais je pense que ça pourrait... Alors moi, ça me paraît simple, hein, je ne travaille pas au gouvernement, mais on va faire un petit coucou aussi à Adrien, il n'y a pas de souci.
Adrien Taquet, si vous nous écoutez, ce serait peut-être bien, en effet, de centraliser les infos. On sait que c'est possible, on sait que ça a été fait. J'ai partagé il n'y a pas longtemps et je soutiens, par ailleurs, une campagne qui a été menée par le gouvernement, avec un site internet qui doit normalement s'étoffer justement sur en l'occurrence, le sujet, c'était l'accès à la pornographie chez les enfants et comment maîtriser le sujet. Bah, peut-être qu'on pourrait créer une plateforme où les parents, justement, pourraient aller chercher, piocher les sujets qui les intéressent avec les ressources centralisées. Ça pourrait être un vrai gain de temps, donc, sur lequel on pourrait justement retrouver ces sujets que je viens d'évoquer de pornographie, mais aussi les sujets par rapport aux violences éducatives ordinaires, et aussi bien sûr les structures dans lesquelles on peut être accompagné, parce que y a un point qui me semble clé et essentiel sur le sujet, c'est que, et qu'il faut dire aux parents, c'est non, vous n'avez pas à être seul face au sujet de la parentalité et de l'éducation, et justement il peut y avoir des structures ou des communautés pour vous accueillir.
Vous n'avez pas à être seul. Et attention au gourou de la parentalité.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et c'est vrai que si on voulait aller un petit peu plus loin dans la démarche, parce que ça existe par exemple au niveau professionnel, on pourrait imaginer qu'au niveau du gouvernement, il y a comme une, c'est peut-être pas le bon terme, une labellisation des structures qui seraient reconnues justement par rapport à leur approche et par rapport à leur accompagnement. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans la parentalité, c'est extrêmement nécessaire pour protéger aussi les parents, parce qu'il y a certains parents qui se font juste arnaquer, enfin, le mot est simple, qui vont dépenser beaucoup d'argent en pensant être accompagnés et qu'ils ne le sont pas au final.
Oui, complètement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on doit parler dans cet épisode, c'est le risque, notamment sur les réseaux sociaux, de tomber sur des personnes qui sont alors parfois mal intentionnées, parfois de bonne volonté,
oui.
Clairement, mais en tout cas qui sont soit pas expérimentées, ou qui ont juste pas la compétence pour accompagner. Je dis pas, il n'y a pas de compétence pour être parent, je pense. Mais...
Non, mais pour accompagner l'humain, oui.
Pour accompagner l'humain, c'est quelque chose qui se travaille, et en tout cas qui s'acquiert, au moins dans le temps. Et en effet, c'est vrai qu'avoir un label ou quelque chose qui serait, qui pourrait dire « Ok, ça c'est bon », voilà, on sait aujourd'hui que créer un institut, par exemple, ce n'est pas un gage spécialement de label
complètement.
Spécifique. Il y a des structures comme la tienne qui sont reconnues comme structures de formation, et donc forcément, ça permet quand même d'avoir une crédibilité bien et une sûr. Reconnaissance du travail effectué qui est bien plus grande. Donc là, on a parlé des parents. Comment est-ce qu'on fait quand on est pro de la petite enfance ? Alors, je pense notamment aux structures d'accueil type assistante maternelle et crèche pour avancer sur le sujet. Et je vais je vais donner un exemple tout bête les assistantes maternelles, notamment celles que j'ai rencontrées et celles avec qui je peux échanger et celles que j'emploie. Moi, de ce que j'entends, il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est trouver du temps pour avoir des formations. Apparemment, c'est compliqué. Il y en a trois sujets. Deux, c'est que ce qu'elles peuvent avoir en formation, notamment sur l'éducation non violente, c'est pas ce qu'elles entendent ensuite des structures officielles qui les accompagnent. Enfin, des structures officielles de l'État, en tout cas, qui les accompagnent. Et le dernier point, c'est que c'est compliqué parce que après, c'est avec les parents que ça peut bloquer. Est-ce que c'est ce que tu retrouves sur le terrain comme difficulté ?
Alors, le deuxième point... J'ai les points à l'envers. Ça m'intéresserait d'en savoir plus sur le deuxième point. On pourra y revenir justement sur cet écart que l'on rencontre. Donc, les assistantes maternelles, c'est un sujet que l'on connaît très bien chez les petits sages. Assistantes maternelles et gardes d'enfants. Donc, je pense aux sociétés de gardes d'enfants. Donc, je vais en profiter pour rappeler les droits. C'est que les assistantes maternelles et gardes d'enfants, comme tout salarié, ont un droit à la formation. Ce droit, il est quand même intéressant parce qu'il est à hauteur de 58 heures par an. Donc, ce sont des heures non cumulables et qui se remettent à zéro chaque année. Sur ces 58 heures, aujourd'hui, le souci, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de formation. Si, je pense déjà, il y avait une obligation de formation, mais de la même façon, on parle beaucoup de lui aujourd'hui, mais Adrien Taquet, il travaille. Si on avait une obligation de formation, je pense que ça favoriserait beaucoup de choses. Parce que nous, on accompagne les assistantes maternelles à la signature d'un contrat avec un parent qui est employeur. C'est important de se rappeler qu'on a quand même cette position de parent employeur avec une assistante maternelle. Donc, on les accompagne et on les invite à dire, dès la signature du contrat, cette année, j'ai le droit à tant d'heures de formation, peut-être même de les avoir planifiées, et quelque part de dire que c'est acté. Ça peut être une première chose. Peut-être pas les 58 heures si c'est pas évident, mais les formations, pour donner un ordre d'idée, durent entre 14 et 21 heures, donc ça veut dire 2 ou 3 jours. On peut proposer ça aux parents. On doit, je crois, même le faire. Dans un monde idéal, ce serait même aux parents, encore une fois, employeurs, d'être informés, parce que je crois qu'ils ne le sont pas, et de dire à leur assistante maternelle comment on fait. La complexité des assistantes maternelles aussi est qu'elles accompagnent, elles accueillent les enfants de plusieurs parents. Donc, les jours qu'elles vont banaliser pour les formations doivent permettre à chaque parent de s'organiser. Et elles sont toujours dans la dynamique de se dire « je ne veux pas embêter les parents ». En réalité, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une profession qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin d'être reconnue par les parents, qui a besoin d'être reconnue par l'État. Et la première clé, ce serait de rendre la formation obligatoire. Dans le projet des 1000 premiers jours, on va leur demander de signer la Charte nationale d'accueil du jeune enfant. Aujourd'hui, il faut être clair, quand on la présente en formation, on a peut-être 2 assistantes maternelles sur 10 qui la connaissent. Donc, on voit qu'il y a déjà un gap. Et ensuite, sur les difficultés, c'est vrai que les formations sont principalement le samedi, en ligne, le soir ou le samedi matin, et qu'une assistante maternelle, elle n'est pas en vacances quand elle accueille vos enfants. C'est un véritable métier. Et quand elle a travaillé 50 heures dans la semaine, elle n'a pas toujours l'énergie de venir en formation le samedi. Donc je crois que, enfin voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est un véritable travail d'accompagnement des parents, de comprendre à quel point c'est nécessaire de partir en formation. Il faut rappeler que la formation initiale des assistantes maternelles est très 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 light. C'est presque trop facile aujourd'hui de devenir assistante maternelle, et c'est pour le bien-être de leur enfant qu'elles doivent partir en formation. La formation devrait être obligatoire encore une fois tous les ans, ça permet de remettre à jour ses connaissances et les actualiser. Par rapport au point que tu évoquais, où elles ne retrouvent pas la même chose lors des formations et ensuite, par exemple, sur des sites d'État, etc., il faut bien choisir son centre de formation. Et il faut lire le programme de formation. Et ça, encore une fois, ça vient toujours dans l'idée de valoriser mon expertise professionnelle. Aujourd'hui, on se rend compte au quotidien qu'on a des assistantes maternelles qui viennent s'inscrire à une formation juste en lisant le titre. Donc, à partir de là, nous, on les engage à être actrices aussi et acteurs, il y a quelques assistants maternels, de leur formation, et de lire le programme. Donc, je suis d'accord que parfois, il y a des écarts et il faut y être vigilant. Il faut aussi le remonter, ne pas hésiter à en faire part. Mais il y a aussi une responsabilité de lire son programme de formation. Je pense que la première étape, c'est de se dire que si le centre de formation n'a pas quelques minutes à vous accorder pour faire un point sur les formations que vous avez suivies, votre projet pédagogique, etc., essayez-en un autre. C'est déjà une première étape.
Bah, je te rejoins, et d'ailleurs, je me permets d'élargir à toutes les formations qui peuvent exister.
Exactement, tu as raison.
Parents ou pas parents, assistante maternelle ou pas assistante maternelle, sur tous les sujets, et même d'ailleurs quand vous voulez accéder à un service quelconque, voilà, il y a le titre, mais les titres, ils peuvent être très marketing.
Oui.
Voilà, c'est le contenu, qu'est-ce qu'il y a dedans, et vraiment aller creuser, quoi. Surtout quand vous pouvez investir des grosses sommes d'argent. Et pour revenir à ce qu'on a évoqué précédemment, surtout quand vous avez affaire à des personnes qui ne sont pas forcément d'une grande honnêteté sur le sujet. Voilà, il vous faut du détail et du détail sur le contenu. Je pense que c'est important, et qu'en effet, quand les personnes ne répondent pas ou quand les personnes vous disent « Non, mais inscris-toi, tu vas voir, machin. » Non.
Non.
Parce que l'argent, il est déjà mis en jeu et c'est pas évident. Alors moi, ce que je comprends, c'est que c'est vrai que c'est un point qui est évoqué dans les 1000 premiers jours. Donc, encore une fois, on va faire un petit peu au cadre et un taquet. Non, mais c'est vrai que c'est un gros sujet, parce qu'aujourd'hui, les assistantes maternelles, moi, des retours que j'ai, c'est en effet, c'est très compliqué, parce qu'il y a aussi la question du financement, parce que le fait que ce soit financé, de ce qu'on m'a expliqué, c'est assez compliqué de s'organiser. Enfin, les parents doivent s'organiser entre eux, parce qu'il y en a un qui paye, ensuite ils se remboursent. Enfin, ça a l'air très complexe.
Ah, merci d'en parler, c'est fini, ça.
Ah, d'accord, bon.
Mais c'est bien que tu en parles.
C'est bien qu'on le dise,
parce
alors.
Parce que personne, enfin, ah ouais, peu le savent.
Bah, tu vois, là, et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, 2 assistantes maternelles m'ont dit le contraire.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ça date de début 2021. D'accord. Aujourd'hui, l'allocation de formation, qui est à 4 euros et quelques, excusez-moi pour le manque de précision, 4,58 € il me semble, elle est versée directement à l'assistante maternelle. C'est vrai qu'avant, c'était terrible, ce système, parce que les parents devaient, et beaucoup d'assistantes maternelles ne recevaient jamais cette allocation. Donc, j'en profite pour le dire. L'allocation, elle vous est reversée à vous, professionnels, assistantes, assistants maternels, et vous avez la possibilité, en fait, la structure qui régit la formation des assistantes maternelles et gardes d'enfants s'appelle Hyperia. Vous trouvez tous les organismes de formation et toutes les formations sur leur site. Vous pouvez vous créer votre espace personnel et suivre votre dossier et voir ce qu'il en est de cette allocation de formation. Mais aujourd'hui, heureusement, elle vous revient à vous. Et un autre élan qui est mis en place là par le gouvernement, c'est ce qu'on appelle le plan 600 000. Donc les communications devraient commencer à arriver à la sortie du podcast ou au mois de mai, fin avril, début mai. En fait, c'est l'État qui a investi une enveloppe supplémentaire pour la formation des assistantes maternelles et gardes à domicile, et qui va communiquer largement, normalement, au niveau du territoire, pour rappeler toutes ces informations-là.
Mais tu vois, je pense que c'est nécessaire, parce que moi-même, pourtant concerné par le sujet, j'étais pas du tout au courant. Et c'est vrai que c'était, ça avait l'air d'être une usine à gaz incroyable pour faire une formation en étant assistante maternelle. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est que c'est un sujet de société. Comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer la société dans ce sens-là si les parents seuls ne peuvent pas tout? Voilà, pour reprendre les propos d'un ancien président concernant l'État, moi ce que j'ai envie de dire c'est les parents seuls ne peuvent pas tout. Donc merci l'État d'essayer d'avancer sur ces sujets en tout cas, et de proposer des accompagnements, et si possible, encore une fois je le répète, message pour Adrien Taquet, centralisons les informations s'il vous plaît, parce que franchement quand on est parent, voilà, aller chercher sur le site de la CAF, de machin, de trucs, les infos, c'est complexe. Et puis, avec les enfants qui jouent à côté, qui crient, qui machin, notre état de fatigue potentiel, c'est quand même très, très, très compliqué. Alors, on a déjà parlé de beaucoup de choses, mine de rien. Je voudrais juste qu'on parle un petit peu aussi des structures d'accueil, de crèches. Parce que ce sont des structures dans lesquelles on peut potentiellement aussi retrouver de la violence dite éducative ordinaire. Et là, j'ai des retours qui sont encore d'une autre nature. C'est que moi, quand je parle là, du personnel en crèche... Alors en effet, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. On parle de l'institution crèche. Hein. D'accord, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui travaillent dans les crèches individuellement ont des problématiques. C'est pas ça que je dis. Mais en tout cas, les retours que j'ai d'ailleurs, même des personnes à qui ça se passe très bien, c'est qu'elles doivent lutter avec des consignes qui ne concernent que... les éléments, en gros, enfin, je tournais ça différemment. J'ai l'impression que le but du jeu, c'est qu'on puisse pas porter plainte.
Mais tu vas retrouver la même chose avec les assistantes maternelles. On est dépité à chaque fois quand on propose des ateliers, par exemple, d'éveil ou des formations sur l'éveil. Toutes les 5 minutes, j'ai l'impression d'entendre « mais ça, j'ai pas le droit. Ça, j'ai pas le droit. » Et là, je te parle d'activités simples, d'éveil à la nature, d'éveil au goût, etc. Il y a cette surprotection... Qui nuit réellement au développement de l'enfant. L'enfant ne peut pas monter sur le toboggan à l'envers parce qu'il risque de se faire mal, etc. Enfin, à l'envers, entre nous. Hein, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu du point de vue du professionnel. L'enfant ne peut pas expérimenter son environnement et son corps parce qu'il risque de se faire mal et qu'ensuite on va voir les parents. Donc, c'est vrai qu'on est dans une surprotection de l'enfant qui, finalement, va se trouver limité dans son exploration sensorielle qui est la base de son développement. Et je te rejoins complètement sur ce point-là. Nous sommes dans une violence éducative ordinaire institutionnelle par rapport à cette surprotection. Et là encore, je pense que ce qui est important, c'est la communication avec les parents, de pouvoir échanger, parce que c'est des sujets qui sont tellement récurrents sur la morsure, les enfants qui tapent. Moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que il y a de plus en plus de violence. Alors j'utilise ce terme, même si à mon sens les enfants ne sont pas violents, mais ils ont des actes qui sont perçus comme par les professionnels comme de la violence, qui emploient ces mots, qui n'ont pas les formations qui leur permettent d'avoir du recul pour comprendre qu'il se passe peut-être quelque chose chez l'enfant. Et comme tu dis, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps parce que nous, on se rend compte qu'au quotidien, la première chose qu'on leur propose, c'est de prendre du temps pour l'enfant et de sortir de cette journée qui est rythmée par une horloge, qui est rythmée par des soins qui sont nécessaires, mais on est encore trop sur du soin physique et pas assez de temps à l'accompagnement. Donc je te rejoins complètement sur ce sujet-là, mais encore une fois, on a aussi notre responsabilité d'être humain. Et il y a des crèches qui décident de faire autrement, et des assistantes maternelles qui décident de faire autrement. Tu ne peux pas imaginer le bonheur que j'ai ressenti quand une assistante maternelle m'a écrit un mail en me disant « Nelly, j'ai enlevé l'horloge et ma montre et les journées se passent tellement mieux. » C'est pas, ça paraît facile hein, de le dire comme ça, encore une fois, ça nécessite de travailler et de se former. Mais ce sont des petites choses qui veulent dire qu'on peut, on a la possibilité de mettre des choses en place tout en respectant ce cadre légal. Et recentrer sur l'enfant, finalement.
Tu vois, moi, je trouve une certaine logique. Quand on sait que la base, la création de la puériculture, c'est la survie de l'enfant et non son développement.
C'est ça.
Ben, on retrouve la même chose ensuite dans les structures qui ont découlé. Et c'est vrai que ça fait des siècles maintenant que c'est en place. Et donc, voilà, pour remettre ça en question, c'est pas évident. Et puis, moi, le message que j'aurais envie de passer... Et là, je parle vraiment de mon expérience de parent qui emploie une assistante maternelle Et je me rappelle très bien, une des premières fois, je crois, ma fille, s'est cognée, s'est fait mal, enfin, s'était blessée, je sais même plus où, quoi. Et où l'assistante maternelle vraiment était désolée de ce qui s'est passé, et où moi, j'ai simplement dit, écoutez, ils ont joué, ils se sont fait mal. Ok, ils ont joué, ils se sont fait mal. Mais en toute transparence, je sais aussi qu'il y a potentiellement un risque de. Enfin, il y a une peur de la plainte, en tout cas, derrière. Et donc, n'attendons pas plus non plus des assistantes maternelles que ce que nous, on serait capable de faire.
Exactement.
Et je parle aussi pour les crèches, bien sûr. C'est, moi, au moment, ma fille, quand, pas plus tard qu'hier, elle joue avec ses cousins, elle se blesse, quoi. Enfin, voilà, ça passe, on accueille le truc. Et puis, s'il y a une petite marque, voilà, faut pas. Enfin, y a des choses qui sont des accidents de la vie. Et ce serait dommage qu'à force de vouloir qu'il n'arrive rien aux enfants, justement, il ne leur arrive rien.
Mais regarde les enfants. C'est ce que je fais souvent remarquer aux adultes, parents ou pros. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on était petits, on avait des vrais bobos avec du pu, c'était pas beau, etc. On avait des pansements, le mercurochrome, etc.
Le pansement des héros.
Le pansement des héros. aujourd'hui, il n'y a plus de bobos comme ça. Il y a des micro-bobos. Quand ton enfant, petite perso, monte dans un arbre, ou en tout cas va expérimenter autour de lui, c'est pas toujours bien vu parce qu'on a peur. Attention, tu vas te faire mal, il va se faire mal. Et c'est pareil pour les tout-petits, en fait. Et encore une fois, c'est dommage parce que dans le développement de l'enfant, dans son développement... physique, psychologique, etc., c'est important d'expérimenter son corps. On sait qu'aujourd'hui, les enfants tombent beaucoup plus. Ils se font moins mal, mais ils tombent beaucoup plus, parce que justement, ils n'ont pas la possibilité d'avoir cette expérience sensorimoteur, qui est capitale. Donc, comme tu dis, n'allons pas mettre une pression supplémentaire aux professionnels, alors que ce sont des choses qui arrivent avec nous, que... les accidents ne sont pas non plus quotidiens et qu'au final, c'est important de rappeler que les accidents les plus fréquents restent à la maison et que ça reste des accidents domestiques, notamment dans la cuisine. Ce qui apporte un autre point qui frustre énormément les professionnels, c'est par exemple sur l'éveil au goût, elles n'ont pas le droit, la majorité du temps, en tout cas elles pensent ne pas avoir le droit de faire de la cuisine avec les enfants. C'est tellement dommage, c'est ça la vie. C'est d'apprendre aussi à faire la cuisine avec un ou une professionnelle. Et sans trop partir loin dans le sujet, peut-être que s'il y avait un peu plus d'hommes aussi dans la petite enfance, ce serait chouette.
Oui, non mais complètement. D'ailleurs, ça, je pense que c'est un gros sujet. Alors, en effet, si on commence à développer ça, pourra refaire un podcast spécifiquement sur le sujet de pourquoi si peu d'hommes dans les métiers du care et de l'accompagnement à l'enfance, ce qui est dommage. Et on pourra aussi se demander pourquoi ce qu'on appelle des écoles maternelles.
Exactement. Et voilà. Des assistantes maternelles.
Maternelles, voilà. Non mais complètement, surtout que en plus on vient aujourd'hui avec des nouveaux sujets, donc on parle de la violence, on parle de la non-violence éducative. On parle aussi, et c'est un sujet que vous traitez je crois, des différences de genre dans les accompagnements, donc on arrive avec des nouveaux sujets, mais c'est vrai que ça serait peut-être bien qu'on lâche la pression sur ces éléments du quotidien qui sont des éléments apprenants. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut caler et qu'il faut bien se rappeler, en fait. Les enfants, apprendre n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose qui nous arrive et ça nous arrive tout simplement en vivant. Donc, en l'occurrence, pour les enfants, c'est en jouant, puisque tout n'est que jeu. Et ça serait peut-être bien de remettre ça au centre des préoccupations. Nous avons parlé du point de vue du parent, nous avons parlé du point de vue des pros de la petite enfance, nous avons même parlé un petit peu du point de vue de l'État, et on va repoquer Adrien Taquet. Et maintenant, du point de vue de l'enfant, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire?
Et justement, je pense que du point de vue de l'enfant, j'en reviens au début de notre discussion, on pourrait peut-être vraiment les considérer comme des êtres humains à part entière dans notre société. C'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Je ne sais pas si tu rencontres la situation. Mon enfant a bientôt 7 ans et il va facilement parler avec les personnes qui l'entourent. Et nombre de fois où on nous pose, par exemple, des questions à nous adultes, où on ne s'adresse pas directement à lui, je trouve ça juste choquant en réalité. Ça montre bien qu'on est dans cette relation où l'enfant, il est là, c'est un être presque pas à part entière. On ne le considère pas en tant qu'être humain. Et ça, c'est dommage et c'est quelque chose de très marquant. On avait participé à la diffusion de documentaire qui s'appelle « L'arbre de l'enfant » d'Anne Barth, qui a suivi des enfants qui sont devenus des adolescents et qui étaient justement dans ce chemin, qui étaient justement dans ce schéma de violence éducative ordinaire. Et moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup fait écho dans ce documentaire, c'est que ces enfants devenus ados, elle les a suivis encore une fois pendant plusieurs années, disent à un moment « j'ai plus envie de parler aux adultes, j'ai pas confiance en eux ». Les adultes ne m'entendent pas, ils ne m'écoutent pas. Et ça, je pense que c'est vraiment dommageable dans la relation au quotidien. Et ça, c'est valable vraiment pour tous les adultes. Tu le disais, ce qu'on apprend en vivant les choses. Et je trouve formidable que les enfants puissent s'autoriser à aller interroger les personnes qui les entourent, ne serait-ce que sur leur quotidien, sur leur métier. Enfin, c'est des choses que tu partages aussi de temps en temps. Et je trouve ça chouette. Et je vais te prendre un exemple. Alors, je suis loin d'être parfaite, mais... Et je me mets parfois en colère. J'essaye, hein, mais... voilà, je suis comme tout le monde. Et en réalité, donc, j'étais en train de faire des courses avec mon fils et on cherchait pour l'une de mes formations un panier à trésors. Donc, on était dans un magasin, peu importe lequel. Et je lui proposais de chercher des choses, même qu'il ne connaissait pas, parce que l'objectif, c'était de faire travailler les plus petits sur le sensoriel. Et donc, il prend un bâton de bois, donc j'ai appris plus tard que c'était un ustensile pour la cuisine, peu importe, et il me dit qu'est-ce que c'est. Donc je ne savais pas ce que c'était, on n'était pas très loin de la caisse, et je l'invite à aller voir les trois personnes, les trois adultes qui étaient à la caisse, et de leur demander, c'est quelque chose avec lequel il est à l'aise, il est ok. Donc il allait les voir, en leur demandant qu'est-ce que c'est, combien ça coûte. Combien ça coûte, c'était pour moi. Et donc le premier adulte lui répond à peu près gentiment, à peu près respectueusement, et la seconde, lui dit, c'est pour taper les enfants. Et ça paraît anodin, en réalité. Puis ça a fait rire la troisième collègue. Et ce jour-là, je pense que c'était juste le truc de trop. Et je me suis approchée, et ça m'a fait repenser à une de nos conversations, et je crois que c'est aussi Noémie Delattre, pardon, qui en parle. Et je lui dis, mais non, c'est fait pour taper les femmes. Et là, elle m'a regardée un petit peu bizarrement. Et j'ai encore pensé à ça, je vais aller un peu plus loin. Je dis, pour taper les noirs? Et là, elle m'a regardé, mais vraiment, je lui dis, vous voyez, là, ça vous fait écho et vous trouvez ça extrêmement violent. Mais finalement, cet enfant du haut de ses 6 ans, quand il est venu vous parler, il y a des choses bêtement physiologiques. Il lève la tête, c'est moins facile pour lui de s'exprimer. Il s'adresse à vous, il prend son courage et vous lui répondez, c'est fait pour taper les enfants. Il ne vous connaît pas, il ne sait pas que vous rigolez, il ne sait pas que c'est de l'humour. Et moi, je ne le considère pas comme étant de l'humour. La conversation n'a pas été plus loin. Peut-être que ça a servi à rien et que ça les a fait rire par la suite, peu importe. Mais je pense que c'est important aussi en tant qu'adulte d'être une inspiration pour son enfant. J'aime pas trop le mot modèle, mais de là lui montrer que moi aussi là j'étais pas ok en fait avec la façon dont on venait lui parler. Pour le petit clin d'œil, il y a une femme qui s'est approchée de moi qui m'a dit « c'est chouette, la prochaine fois j'oserai ». Donc osons en fait. Encore une fois, la façon dont je l'ai faite est peut-être pas appropriée. J'aurais peut-être pu être plus douce, mais osons sensibiliser les adultes sur le fait qu'il faut juste respecter les enfants. Et c'est pour ça que le livre de Fanny est formidable. Est formidable sur cette idée de changer d'angle et de se dire, mais finalement, ce que je suis en train de dire, de faire à mon enfant, est-ce que j'accepterais qu'on me le fasse? Et même de le dire à l'enfant. En fait, je pense qu'en éduquant l'enfant aussi à ce principe-là de consentement, de respect de lui-même. Alors j'avoue que parfois c'est pas évident, parce qu'encore une fois, en tant que parent, on n'est pas parfait. Et il y a des jours où son enfant peut vous dire « là, t'as pas le droit de me le dire ». Ou en tout cas, si je te l'avais dit, tu l'aurais mal pris. Et en fait, c'est cool. Sur le coup, c'est un peu agaçant, parce qu'on est encore dans nos vieux schémas dominant-dominé, et on se dit, comme tu le disais, mais pourquoi il m'écoute pas juste? Et puis quand on prend un peu de recul et qu'on redescend, on se dit que c'est chouette.
Exactement, c'est chouette, et c'est un petit peu ce qui est intéressant. Alors c'est vrai que ça ramène ensuite à des réflexions de société encore plus profondes, c'est que ça peut aussi amener un adulte plus tard qui va justement pas être obéissant. Et donc dans la société, il faut bien dire ce gros mot, mais, mais dans une société capitaliste où on attend que les gens soient obéissent,
oui, bien sûr.
Sans se poser de questions, ben en effet, ça peut déranger. Mais la question, encore une fois, c'est quelle société on veut demain. Je voudrais revenir sur un petit point, c'est... Enfin, je voudrais préciser quelque chose. C'est que ne pas... Enfin, prendre en considération le fait que l'enfant est un être à part entière, ça n'est pas non plus se déresponsabiliser de son devoir de parent.
Complètement.
Ce que j'entends là, c'est, en tout cas, tu vois, à titre personnel, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter à prendre la main. Toi, tu évoquais le fait qu'on s'adresse plus souvent à l'enfant, et je te rejoins à 1000%, surtout qu'ils ont des réponses qui sont tellement surprenantes et tellement intéressantes. Enfin, moi, j'adore. Mais après, il y a d'autres sujets où, ben, des fois, il n'y a pas le choix. À titre personnel, nous, on a trois sujets sur lesquels on est en responsabilité constante. C'est la santé, la sécurité et le respect de l'autre.
Mmh. Voilà.
Je vous laisse éventuellement écouter d'autres épisodes dans lesquels je donne différents exemples sur ces sujets-là. Et ça, c'est simplement important. Et qu'après, finalement, enfin, à titre personnel encore, mais au-delà de ça... Okay, est-ce qu'on irait interférer dans la vie de notre sœur, frère, voisin, si l'on ne voyait pas se mettre en danger? Non, il fait ses choix, donc ça pourrait être intéressant. Sous couvert, bien sûr, aussi, que dans le respect de l'autre, les choix soient OK pour le parent. Faut pas, voilà. Après, peut-être essayer d'amener une notion de dialogue plutôt que de soumission. C'est peut-être ça qu'on peut creuser. Tu évoques de l'eau. Tu évoques un livre, donc on parle ici du livre de Fanny Vella, et si on changeait d'angle, voilà, que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait, aussi à découvrir l'ensemble du travail de Fanny Vella, que j'apprécie particulièrement. Un dernier point sur ce sujet de la non-violence éducative. Il y a quand même un point qui me semble important, c'est l'espèce de flou qui règne autour de ça. Et... parce que le texte de loi reste quand même relativement vague sur ce qu'est une violence dite éducative ordinaire, puisque finalement, on peut y mettre plein de choses. Et dans mes pérégrinations en devenant parent, je suis tombé sur des listes, enfin, surtout une liste, et je reste toujours interloqué. On en parle avec Marie du compte Little Bon Bao dans un live où moi, j'explique mon point de vue personnel, qui est que j'ai du mal à comprendre comment dans une société où on a des enfants qui meurent sous les coups de leurs parents encore chaque année, et régulièrement, dans une société qui reproduit les violences éducatives ordinaires qu'elle a subies, donc le dernier chiffre en date, c'est 80% des adultes qui reproduisent, et là on parle bien sûr de châtiments physiques et de violences psychologiques fortes, notamment les humiliations. Et en fait, on est là des fois, notamment sur les réseaux, à se prendre la tête pour savoir... Enfin, je vois des gens se prendre la tête pour savoir si on peut couper les ongles de son enfant pendant qu'il dort ou savoir si on peut le mettre dans une poussette ou pas. Est-ce que c'est pas un petit peu problématique aussi de vouloir partir dans un état extrême comme ça alors que la loi date de 2019 et que, est-ce que, en tant que parent, on n'a pas toutes les raisons de se sentir perdu, justement, en plus en n'étant pas, accompagné.
Complètement. Et puis, tu rajoutes à cela le... cette hyper-culpabilisation des parents, justement, qui est opérée envers les parents, qui se sentent et qui sont jugés, hein, dès lors que tu attends un enfant. Donc c'est vrai que c'est pas aidant. Cette liste, on nous l'a demandé aussi, et comme toi, elle m'embête beaucoup. Elle m'embête beaucoup parce que ça reviendrait encore mettre des injonctions, et ça reviendrait à penser que le guide du super-parent existe. Il n'existe pas. Enfin, même si vous le trouvez, non, il n'existe pas. Il n'y a pas une checklist. Il n'y a pas. C'est pas aussi simple que ça. On parle d'humain. Et c'est pour ça que par rapport à ce que tu évoquais, c'est vrai que moi, ce sont des choses qui me font écho, qui me font de la peine aussi parfois. Parce que pendant qu'on réfléchit à ces sujets-là, encore une fois, on n'est pas dans l'être. On n'est pas dans la relation. On se culpabilise, etc. Et donc, ça apporte pas du positif à la relation. Je pense que ce qui peut être intéressant, alors je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est réellement de s'écouter. Et c'est pour ça que je reviens sur cette idée de changer d'angle et de se dire finalement, moi, au quotidien, si ça m'arrivait, est-ce que ce serait OK pour moi? Tu rappelles les règles, les règles de base que je partage complètement autour de la sécurité, du respect de l'autre et de la santé. Sorti de ces éléments-là, Est-ce que finalement, ce que je propose à mon enfant, ce serait OK pour moi ? Et comme tu disais, parfois, on va lui proposer des choses qui ne seraient pas OK pour moi, mais sur lesquelles on n'a pas le choix. Mais c'est la façon dont je vais l'emmener. C'est sûr que bien souvent, les enfants ont envie de rester dans un lieu sympa, le parc, la plage, peu importe, plus longtemps que nous. Et on n'a pas toujours le choix. Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser de tout. C'est aussi apprendre à l'enfant que parfois on a des contraintes, mais à partir du moment où ces contraintes sont aussi OK pour nous, qu'elles sont expliquées et qu'elles sont proposées de façon correcte, c'est OK. Ce sera embêtant de sortir une liste et de se dire qu'avec tel ou tel comportement, on est dans une violence éducative grave, que là finalement c'est pas grave, etc. C'est de se dire finalement au quotidien, quand je fais le bilan de ma journée, comment est-ce que j'ai ressenti ma relation avec mon enfant ? Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser... C'est pas très bien cette phrase. Donc je reprends. Je trouve qu'une des pistes qui peut être chouette en tant que parent, c'est de s'intéresser aussi à la répétition des actes. C'est de se dire que, par exemple, il y a une violence éducative ordinaire que je vais reproduire. J'en ai conscience. Elle me gêne. Je peux continuer à me culpabiliser. Finalement, ça va me freiner, je vais marmonner, je vais m'en vouloir, je vais m'en prendre aux personnes autour de moi. Ou je peux juste me dire, elle est là, je suis pas OK avec ça. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul et de me rendre compte que c'est souvent dans les mêmes situations qu'elle revient. Comment est-ce que je peux faire en sorte que ces situations, elles se passent mieux ? Qu'est-ce que je vais mettre en place ? Je vais essayer, peut-être que ça va marcher ou pas, mais en tout cas, j'aurai essayé. Et c'est comme ça, en fait, que je grandis. Et ça, c'est valable pour les pros ou pour les parents. C'est de se dire, à un moment, je peux essayer, j'accepte que je ne suis pas parfait ou parfaite, mais ce qui est important, c'est de se responsabiliser et de ne pas attendre et de se dire que son enfant ne s'en rend pas compte. Parce que je pense que ce qui est aussi très important de rappeler dans cet épisode, c'est que la majorité des violences faites aux enfants sont réalisées dans la base qu'on appelle préverbale. Parce que par définition, l'enfant ne peut pas s'exprimer. Donc même à cette période-là, s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas OK, c'est important de se dire « c'est pas correct, qu'est-ce que moi je peux faire tout seul ?» Et si vous sentez que vous avez des limites, on a parlé des différentes ressources qui existent quand même aujourd'hui durant ce podcast, vous avez le droit de vous faire aider. On va ressortir la phrase qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ce village, c'est un petit peu notre responsabilité de chacun de se le créer. Réellement ou virtuellement, peu importe, mais de trouver des personnes qui font écho dans le schéma d'éducation qui est le vôtre et qui respectent l'intégrité de l'enfant et la vôtre.
Moi, sur sa notion de village, je voudrais juste rajouter une chose qui me semble importante à titre personnel et justement pour se nourrir aussi. C'est oui, prenez des gens qui vous suivent, qui sont dans la même direction que vous, mais pas que.
Oui.
Prenez aussi des gens qui vont challenger la réflexion, qui vont venir justement encourager la critique à l'esprit critique de vos pratiques. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément des moments agréables, forcément que des temps d'échange agréables, mais en fait, en tout cas, ça nourrit et ça permet aussi d'évoluer sur ces pratiques et de comprendre les points de vue. Tu soulèves, on a parlé de cette liste, et pour finir ce point important sur les accompagnants, moi je trouve extrêmement problématique, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, de voir des gens dresser des listes comme ça de comportements qui sont ou pas DVO et qui sont ou pas tolérés, qui font de vous un bon ou un mauvais parent. Donc, je vous invite à fuir toutes ces sémantiques. Comprenez bien une chose, c'est que, et là c'est moi en tant que professionnel de l'accompagnement qui parle, c'est que on ne peut pas vous donner un endroit à atteindre sans se soucier de l'endroit où vous partez.
Exactement.
Le chemin, il a un point A et un point B. Il y a des embranchements possibles, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas faire ça. Et toute proposition qui ne respecterait pas ça, je vous invite d'ailleurs à la fuir concrètement, parce que ça va surtout vous faire beaucoup de mal. On a parlé de beaucoup de choses. Merci beaucoup, Nenny. C'est un beau contenu. Je suis vraiment très content. Quel mot tu aurais pour les parents qui sont justement en chemin sur le sujet pour finir ?
Non, en fait, je voulais juste, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est quelque chose qui est souvent partagé dans l'accompagnement des enfants. C'est de se dire qu'aujourd'hui, les violences éducatives ordinaires, elles sont aussi produites parce que l'enfant a un comportement qui nous dérange. C'est son comportement qui nous dérange, c'est pas lui, c'est pas volontaire. Et il est important de rappeler qu'aujourd'hui, environ 90% des comportements dérangeants des enfants, attention, les comportements qui nous dérangent nous, hein, je suis très précise sur le sujet, sont finalement une façon pour l'enfant de dire « j'ai besoin de quelque chose ». Donc après, bien entendu, comme tu disais, il est nécessaire de savoir de quoi il a besoin. Souvent, c'est d'affection, d'amour, peu importe comment on va l'appeler, qu'on soit pro ou parent. Mais je trouve que ça, c'est quand même une clé qui aide. C'est-à-dire que plus il y a des comportements dérangeants, plus finalement l'enfant, qui n'a pas encore la capacité, et même en tant qu'adulte, c'est pas toujours simple de nous le dire, va finalement utiliser différents moyens pour dire « j'ai un besoin qui n'est pas satisfait et j'essaye de te le dire ». Donc là, ça nous demande à nous, en tant qu'adultes, d'être observateurs et d'essayer de prendre du recul, de comprendre, et en effet, de peut-être se retourner vers ses pairs qui ont un regard plus neutre pour nous aider à comprendre la situation.
Et tu soulignes un point qui m'interpelle en utilisant la phrase « se retourner vers ses pairs ». Bien entendu, tu veux l'entendre en pair qui s'écrit P-A-I-R-S.
Oui, bien sûr.
Mais moi, je voudrais quand même souligner justement se retourner vers ses pairs, et parce qu'il y a quand même une réalité sociétale qui est qu'aujourd'hui, la charge de cette éducation, et notamment de ce changement éducatif, repose en majorité sur les mères, et que c'est une charge parmi tant d'autres qui est portée encore une fois par les mères. Et donc, je voudrais m'adresser aux pères en leur disant, prenez votre part de responsabilité, intéressez-vous, posez-vous des questions. Aujourd'hui, les ressources sont là, elles sont disponibles. Et justement, c'est aussi un moyen de se passer le relais entre parents aussi des fois, parce que bien trop souvent, quand on parle de ces difficultés, on s'adresse aux mères, alors que a priori, il y a plusieurs parents, et que ce soit un père ou un coparent par ailleurs, je tiens à le préciser.
Complètement. Et moi, j'ai envie de dire aux mères que malgré les chemins d'éducation qu'elles ont pu recevoir, qui peuvent être notamment genrés, dans lesquels on leur a demandé d'être dociles, obéissantes, de tout gérer, on peut aussi se mettre en chemin, se libérer de tout ça et envoyer valser la culpabilité. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on a le droit. On a le droit de se dire que je ne suis pas une maman parfaite et ça va. Je ne suis pas un papa parfait et ça va.
Non mais merci déjà pour tous ces mots. Je pense que ça fait du bien à entendre. On arrive au bout de l'épisode. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les parents qui sont en cheminement sur ces sujets, et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
Avec Julien... On a là donc Julien avec qui j'ai créé Les Petits Sages. On aime répéter que vous êtes le meilleur parent pour votre enfant, qu'il est important de rester sage, imparfait, éclairé, et que c'est comme ça que vous révélerez, c'est ainsi que vous révélerez votre parentalité. Vous êtes vraiment le meilleur parent pour votre enfant.
Merci Nelly.
Merci Cédric.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.